Bonjour, Paysage de Chine sur Radio Grand Ciel avec Simon à la technique pour le chemin du milieu. Jadis, je me suis rendue aux Trois Gorges et de mes propres yeux, j'ai vu la montagne Wu. Cette peinture lui ressemble tellement que je me demande si ces 12 sommets ne sont pas les vrais qui se seraient envolés pour se poser sur ton paravent. La terrasse du soleil, voilée de brume, paraît habitée. La couverture de brocart et la natte de jade sont comme si quelqu'un venait juste de les quitter, s'exclame admiratif Lippo devant une peinture à l'ermitage de son ami Yuan Pan où il fait retraite. Par quelle magie Lippo, regardant ce paravent, fut-il transporté dans le lieu réel? Par l'application de l'unique trait de pinceau, aurait répondu Shitao. Sous la dynastie Han, qui succéda à l'autodafé des classiques du premier empereur Qin Shi Huangti, Confucius fut réhabilité. Les hommes de lettres qui occupaient des postes administratifs impériaux appliquèrent le principe d'harmonie que leur proposait le grand sage. Seul l'homme, parfaitement en accord avec lui-même, parfaitement sincère, peut aller jusqu'au bout de sa nature. Aller jusqu'au bout de la nature des êtres et des choses, c'est se joindre en troisième à l'action créatrice et transformante du ciel et de la terre, rapporté dans l'invariable milieu. Ces hommes de lettres commencèrent à exprimer leurs sentiments poétiques en peignant à l'aide des mêmes traits de pinceau que ceux de la calligraphie dont ils étaient experts. La calligraphie et la peinture ont des noms différents, mais ont un même corps, disait Chuang Yanyuan. L'apparition des caractères fut subtile, reflétant les images confuses de l'univers. L'écriture cursive, le Caoshu, empruntait au chaos primordial l'idée qui l'animait, note-t-il aussi dans son introduction aux critères de la calligraphie. Environ un siècle après la chute des Han, Kukaiche, peintre de fresques et de personnages de la dynastie Qin, surnommé maître du trait, ouvrit la voie de la peinture de paysages aux lettrés, proposant dans Notes sur la peinture de la terrasse des nuages, une représentation de peinture de paysage comme une carte géographique, y réunissant les éléments de la terre, symbole des épreuves initiatiques par lesquelles doivent passer deux adeptes guidés par Chang Taoling, fondateur de la secte taoïste des maîtres célestes à laquelle appartenait Kukaiche. Le Yuntaishan, la terrasse des nuages, décrite dans la topologie officielle, se trouve à 35 li de Tsanchi. La terrasse de 40 toises contient des étangs poissonneux. Des sommets, des pics vont toucher le ciel. Son nom est aussi le pilier céleste. Quatre grottes s'y trouvent, celle de Damma, la reine-mère des immortels, celle des hibiscus, de l'immortel Pink, et de l'immortel Tsun. Deux étangs, celui du cinabre purifié, celui du poisson de jade. Deux escarpements, la racine du pin et du pêcher enroulé. Ces sites sont les lieux de retraite de la montagne. Désormais, la poésie descriptive, comme celle chantée par Xie Ling Yun, « En haut, je vois les cimes des grands arbres, en bas, j'entends les torrents impétueux », à présent, je contemple les plaines étendues, puis je tourne mon regard vers les gorges sur ma droite, fut représenté en peinture. Un siècle plus tard, Siéhe, peintre et critique d'art, écrit dans la préface de son livre « Six principes », dont le premier est « résonance spirituelle dans le mouvement de la vie », signifiant « aller au-delà de la forme visible ». « Ce que l'on voit s'appelle l'invisible », dit Lao Tzu. Le mode de pensée ordinaire est la dissection intellectuelle. Le raisonnement analytique, dit Chuang Tzu. Alors, donne-toi au vide suprême, installe en toi la quiétude, conseille sagement Lao Tzu. Car, par un cœur immobile, nous pratiquons le vide de l'esprit, dit Pai Tu Yi. C'est pourquoi Chang Chao énonçait. Au dehors, je me mets à l'école des créateurs. Au dedans, je capte la source de mon cœur. Le cœur est le centre des émotions de l'homme. Et l'apaiser, l'immobiliser, c'est le délivrer de la contingence du monde, le dépoussiérer des vicissitudes de la vie, afin que, dans sa complète sérénité, se reflète la multiplicité des choses de l'univers et de leur transformation sur sa surface lisse. Le souffle de l'être s'accordant à celui de l'univers qui anime choses et êtres, l'homme atteint le point de la spontanéité, d'où jaillit toute la créativité de l'univers. Atteins l'apogée du vide suprême et garde avec zèle la sérénité, dit Lao Tzu. Les choses ne sont pas saisies par la perception des sens, ils sont enclos dans l'habitacle de l'âme. C'est pourquoi la main ne fait que répondre à ce que le peintre a saisi dans son cœur, explique Fu Cai au 8e siècle. Parce que figurer, c'est créer, recréer. Le pouvoir appartient à ceux qui saisissent, au-delà du visible, les ressorts secrets de la création. Faire un avec l'unité, c'est s'identifier avec la force nourricière de l'univers, le Qi. Sans habitat, c'est l'espace. La continuité sans durée dans le temps, assurait Chuang Tzu. C'est observer les transformations des 10 000 choses. Le changement signifie absence de pensée et d'action. Il est silencieux et immuable. Il pénètre toutes les choses de l'univers. Peut-on lire dans le I Ching, le livre des transformations. C'est ce qu'étudiait Wang Wei auprès de ses amis adeptes du Chan, syncrétisme du taoïsme et du bouddhisme, lorsqu'il se retira dans sa chaumière à flanc de montagne, au bord de la rivière Wang, après avoir été destitué de son poste de ministre. Il pratiquait l'éveil subi par la contemplation assise, et comme les maîtres géomanciens, disait-il, je m'asseyais là où les nuages montent au ciel, laissant se refléter le processus naturel de la création entier sur la surface de son cœur. C'est alors que, vibrant à l'unisson avec l'univers, il revenait à sa chaumière et, sortant le paysage du chaos, il commençait par éclabousser sa feuille d'encre blanche très pâle et, étalant des lavis d'encre de plus en plus foncés, apparaissaient des montagnes, des arbres, le proche, le lointain, laissant à l'eau, aux brumes et aux sentiers le blanc du papier, donnant à ces paysages sans contour une impression d'infini, rendant crédible l'aphorisme de Lao Tse. En accédant à l'unité, les esprits deviennent efficaces. Wang Mo, encore plus exalté et complètement en transe, s'assimilant à Pang Ku, créateur de la terre, après avoir brisé son encre sur le papier, y imprimait les parties de son corps, ses doigts griffant les montagnes pour leur donner substance, ses cheveux s'éparpillant en branches d'arbres, il épousait la feuille comme le ciel épouse la terre. Et comme l'énonce Wei Pei Yang, chaque fois que le ciel s'unit à la terre, il capte les sources secrètes des activités créatrices du yin et du yang, brisant les contraintes d'expression académique des peintres lettrés professionnels où les paysages verts et bleus, travaillés minutieusement au petit pinceau, étaient nimbés de nuages dorés symbolisant l'élixir de l'immortalité. La peinture scrute ce que le ciel et la terre ne montrent pas et révèle ce que le soleil et la lune n'éclairent pas, écrit Chu Ching Xuan. Tu Fu nous le fait constater en s'amusant. Vieux, je suis comme un enfant. Je mets dans la terre une bassine d'eau pour faire un étang. L'éclat de l'étang reflète le ciel azuré. Lorsque la nuit s'approfondit et que la lune disparaît, regardez la myriade d'étoiles nageant dans l'eau. Lorsque l'empereur Chaozong, esthète, collectionneur, peintre et calligraphe de la dynastie des Song, abandonna au XIIe siècle ses territoires du Nord aux barbares mongols, il partit établir sa nouvelle capitale à Hangzhou, au sud du fleuve Bleu. Suivi des peintres lettrés de la cour, il reconstitua l'Académie de peinture impériale qui avait reçu en héritage spirituel l'influence de Su Dongpo, pour qui la poésie et la peinture naissent de la même loi de l'œuvre du ciel et de la spontanéité. Discuter de la peinture d'un point de vue formel, c'est de l'enfantillage. Ainsi que de celle de Mifu, qui instaura une nouvelle esthétique à la peinture de paysage, réalisée par l'effet de points d'encre plus ou moins dilués, juxtaposés sur un papier humide, faisant vibrer montagnes et brumes. Hangzhou était situé entre le fleuve bleu et le lac de l'Ouest, relié par des canaux qui s'étendaient sur la plaine jonchée de blocs de porphyre, échouant sur une chaîne de montagnes au sommet déchiqueté, les flancs perlés d'ermitages et des moines Chan qui peignaient pour les monastères, exacerbèrent l'inspiration de ses lettrés, produisant un nouveau type de peinture libre et spontanée. Leurs sujets, images fugitives en mutation, éphémères, émergeant de nulle part, plongeaient leurs racines dans la tradition philosophique. Shangzi l'avait dit quelques siècles auparavant, un peintre doit méditer avant de prendre son pinceau, car à l'esprit serein, l'univers tout entier se dévoile. Mai Wan le comprit, et d'un pinceau nerveux et elliptique, substitua la partie au tout, une partie fragmentaire et momentanée, sensible à l'impermanence des choses, peut-on lire dans le Bénésite. Quant à Linsai, se libérant de l'académisme, il peignit en quelques traits le superbe portrait de l'Hippo déclamant. Mais il infusait ses paysages dans un papier humidifié, d'une encre diluée, formant des montagnes dont les cimes trouaient les nuages, fondant en même temps un nouveau style de peinture, le Wenjian Hua, la peinture de lettré. Lorsque les Mongols conquirent la Chine, renversant la dynastie Song, les lettrés, afin de ne pas être exilés, réfutèrent la peinture Chan au lavis, se réfugiant résigné dans une peinture académique. D'autres, déjà dissidents de cette peinture académique et désormais du pouvoir, s'isolèrent en protestation et se réfugièrent, comme à chaque période de déception politique, dans la philosophie, la poésie, la calligraphie et la peinture, offrant une esthétique nouvelle et dépouillée. Nitsan fut un de ces peintres. Bien qu'issu d'une famille aisée, possédant des terres, éduqué dans la tradition confucéenne, lorsqu'il se trouva confronté à des problèmes financiers dus à la nouvelle organisation fiscale des Yuan, il répartit son domaine entre les membres de sa famille et s'en fut vogué sur une jonque dans la région du lac Taihu, se réfugiant dans la philosophie du Tao, offrant ses peintures en remerciement du gîte et du couvert. Ses peintures de paysages sur trois plans étaient exécutées avec une assaise de coups de pinceau chargée d'encre sèche, déclinée en une variété subtile de gris. Ces paysages, qui à première vue paraissaient désertiques, arides, glaciaux, aux arbres sans feuilles, regardant la montagne imperturbable, dans un silence impressionnant, se transforme en paix, équilibre, détachement total des désirs et, aspiré par le vide voluptueux, promesse d'allégresse, nous devenons alors le point de fuite du tableau. Faisant la transition de dynastie avec les Ming, qui récupèrent la Chine en 1369, il meurt en 1374. L'académie de peinture est rétablie sous la dynastie Ming. Les théoriciens se préoccupaient des problèmes de composition, valorisant les lignes de force, l'élan général du paysage. En regardant le paysage de loin, on saisit ses lignes de force. En le regardant de près, on saisit la substance, disait Cauchy. En s'efforçant d'étudier le mouvement circulaire ou brisé imprimé par le pinceau, les peintres tentèrent de faire participer l'esprit à la forme par le jeu des vides et des pleins. L'ensemble était joli, mais resta décoratif. Alors que la peinture ne semblait plus être que technique et conditionnée par une encyclopédie, les enseignements de la peinture du jardin grand comme un grain de moutarde, dans laquelle sont répertoriés les arbres, les montagnes, les végétaux, l'architecture, les personnages, mais aussi l'usage du pinceau, de l'encre et des couleurs, le traitement du papier et de la soie, une nomenclature des peintres et leurs traités, Shitao, sauvé jeune enfant du massacre de sa famille de lignée impériale Ming lors de l'invasion mandchoue, fut recueilli dans un monastère Chan et reçut en même temps que l'éducation spirituelle celle des classiques, des lettrés confucéens, et fut ordonné moine. Vers l'âge de 10 ans, il quitta le monastère pour des pèlerinages qui le menèrent vers des retraites cachées dans les montagnes. Faisant de la peinture son métier, il ouvrit un atelier pour honorer les commandes des riches mandchous de la dynastie Qing. Ayant observé tout ce temps durant les peintres professionnels qui travaillaient pour lui, il développa à la fin de sa vie un traité philosophique de la peinture de paysage. Propos sur la peinture du moine citrouille amère, dont le premier chapitre s'intitule « L'unique trait de pinceau », dans lequel on peut lire « L'unique trait de pinceau est l'origine de toute chose, la racine de tous les phénomènes. C'est le yi, nombre premier, premier trait tracé par les apprentis calligraphes, qui comporte en lui os, chair, nerf, permettant de reconstituer la forme des choses au sein de leurs principes internes, exprimant le rythme universel qui témoignera de la maîtrise du peintre, mais il est aussi le même trait pour représenter le un absolu, créateur de tous les phénomènes. Replaçant le peintre dans le chaos, Shitao fait de lui l'artiste créateur de l'univers. Quelque chose de confus et mélangé était là avant la naissance du ciel et de la terre, fait de silence et de vide, seul et immobile, circulant partout sans s'user, capable d'être la genèse de l'univers. Le peu obtient, le nombreux égare, continue Lao Tzu. C'est pourquoi le sage s'en tient au un. Car l'unique trait de pinceau ne veut pas dire, souligne Cauchy, qu'un texte entier ou la forme complète d'une chose était rendue d'un seul et unique trait, mais bien que du commencement à la fin, le pinceau poursuit tous ses mouvements sous l'égide d'un même contrôle sans que l'influence de l'intellect ne l'interrompe. Ainsi, la mobilisation spirituelle précède le pinceau et le pinceau évolue dans cette motivation spirituelle afin qu'une fois la peinture achevée, l'intention s'y trouve reflétée, les formes répondant à la plénitude de l'épanouissement spirituel. L'esprit détaché, l'inspiration devenant inépuisable, le pinceau travaille librement.
Radio Grand Ciel.